Oui, Seigneur, comme un père avec ses enfants, tu prends soin de nous. Tu t'inquiètes de ce dont nos corps ont besoin, mais tu t'inquiètes aussi de leur éducation. Nous te demandons, Seigneur, de nous diriger dans cette lecture et dans cette méditation, afin que véritablement ton esprit nous enseigne quelque chose. Oui, que ton esprit vienne nous expliquer les Écritures. Amen. Alors, les textes du jour nous invitent à prendre dans le Lévitique. J'ai choisi donc de garder deux textes très très courts, hein, dans le Lévitique au chapitre 13. Alors, il est assez long, le chapitre 13, il est sur le même sujet. On lira les trois premiers versets, et puis on passera directement après aux versets 45 et 46. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit « Lorsqu'un homme aura sur la peau une tumeur, une dartre ou une tache qui devienne une plaie de lèpre sur la peau, on l'amènera au sacrificateur Aaron ou à l'un de ses fils. Le sacrificateur examinera la plaie qui est sur la peau. » Et donc, après au verset 45, « Le lépreux atteint de la plaie, portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la moustache et criera « Impur, impur !» Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur. Étant impur, il habitera seul, sa demeure sera hors du camp. » Ça fait froid dans le dos. Ensuite, nous lisons dans l'évangile de Marc, au chapitre 1, premier chapitre de Marc, les versets 40 à 45. Un lépreux vint à Jésus et, se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant : Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit : Je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya aussitôt avec de sévères recommandations et lui dit : Garde-toi de ne rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente pour ta purification ce que Moïse a prescrit. On peut lire jusqu'à la fin du 46, hein, afin que cela leur serve de témoignage. Mais cet homme, une fois parti, se mit à publier hautement la nouvelle et à la colporter, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville. Il se tenait dehors, dans les lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. Alors, je vais vous parler, bien sûr, de ce texte, mais plutôt à la fin de ma prédication. Je voudrais commencer avec une réflexion un petit peu générale sur l'ensemble des miracles de Jésus. Je ne vous parlerai pas des miracles du type multiplication des pains, pêche miraculeuse ou autre, simplement les miracles de guérison, les guérisons miraculeuses de Jésus. Vous avez remarqué que très souvent, lors de ces miracles, quand des infirmes ou des malades se présentent à Jésus, Jésus fait presque toujours une liaison étroite. Il établit un lien étroit entre la maladie et la foi de celui qui se présente, ou du moins du demandeur. C'est pas toujours le malade qui est demandeur, hein. Vous voyez par exemple Jaïrus avec sa fille, ou bien le centenier avec son serviteur. Hein, bon. Donc Jésus tient expressément à relier la guérison qui va avoir lieu avec la foi, le salut de la personne qui se présente. Très souvent, il commence par des mots qui peuvent sembler curieux, du genre « tes péchés sont pardonnés. Notez bien que, à mon avis, le malade n'est pas venu voir Jésus pour se faire pardonner les péchés. Mettez-vous à sa place, le gars il apprend qu'il y a un personnage extraordinaire qui guérit les malades, il est atteint d'une infirmité, d'une maladie, d'une souffrance, il accourt vers Jésus, c'est pas vraiment pour chercher le pardon de ses péchés, il vient chercher la guérison. Mais Jésus commence quand même par, souvent par ces mots, tes péchés sont pardonnés. Et puis ensuite a lieu la guérison, et Jésus conclut souvent avec une formule du genre « Va, ta foi t'a sauvé. » Ça peut paraître étrange. « Va, ta foi t'a sauvé. » Alors bien sûr, on sait qu'il y a une astuce, parce que dans le texte grec d'origine, puisque les évangiles ont été écrits en grec, on sait très bien que le mot sauvé pourrait être aussi bien traduit par guéri. Donc peut-être que Jésus dit la même chose, il dit va, ta foi t'a guéri. Mais dans nos Bibles, le plus souvent, c'est traduit par va, ta foi t'a sauvé. Alors j'imagine que dans la langue dans laquelle s'exprimait Jésus, ça doit être la même ambiguïté, enfin la même ambivalence du mot, parce que sinon les évangélistes auraient un peu trahi la parole de Jésus. Oui, va, ta foi à toi, toi l'ex-malade, hein, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que Jésus est parfaitement dans son rôle, il est parfaitement dans sa mission, dans son ministère, en disant ça, c'est-à-dire en ne se contentant pas seulement de guérir le malade, mais de le ramener à sa foi, à son salut, parce que Jésus est venu pour ça. Jésus a à cœur, il déborde de cette envie de crier au monde entier qu'il est venu apporter la bonne nouvelle de la part de son Père, la bonne nouvelle du salut, de la vie éternelle, du royaume de Dieu pour tous les hommes. Et donc on sent que Jésus, il voit quelqu'un qui arrive, mais avant de le guérir ou avant de lui parler de sa santé, il veut d'abord lui assurer la vie éternelle et le royaume de Dieu, parce que, honnêtement, c'est sans commune mesure. Est-ce que vous vous rendez compte le bénéfice, le double bénéfice que reçoivent ces gens entre la guérison, certes qui est formidable, pour les 10, 20, 30, 50 années qui restent à vivre, c'était sympa. Mais à côté de ça, est-ce que vous vous rendez compte, Jésus assure à ces hommes et ces femmes, leur assure la vie éternelle, le royaume de Dieu, d'avoir une place dans le royaume des cieux. C'est sans commune mesure. Alors, on peut se demander, on peut se poser une question. Jésus dit bien, va, ta foi t'a sauvé, mais au fait, sur quoi se fonde-t-il pour présumer de la foi de ces braves gens ? Qu'il les rencontre quelques minutes, hein, donc ça fait court quand même. Hein. Alors, il y a plusieurs pistes. Soit on voit par exemple des malades qui confessent ouvertement. Vous avez par exemple l'aveugle de Jéricho. Il se lève, il entend que Jésus passe à proximité. Il se lève, il se met à crier « Jésus, fils de David !» Alors, fils de David, c'est pas n'importe quoi. Autour de lui, tout le monde comprend très bien ce qu'il veut dire. Fils de David, il rappelle les prophéties vieilles de plusieurs siècles qui annonçaient que le Messie serait descendant de la lignée de David. Donc là, cet homme, en criant « Jésus, fils de David », eh bien, il confesse qu'il croit que Jésus est le Messie. Ce n'est pas rien, c'est une confession de foi. Mais enfin, la plupart, bien des malades, ne disent rien. Hein, enfin, le texte ne nous en parle pas. Déjà, vous avez le sourd muet. Fatalement, lui, il ne peut pas dire grand-chose. Alors, sur quoi Jésus se fonde-t-il pour présumer de la foi de ces gens ? C'est tout simple. C'est qu'il s'approche de lui. Si vous vous approchez de Jésus, c'est que vous croyez qu'il peut faire quelque chose pour vous. Donc, quelque part, vous confessez que vous croyez que Jésus peut faire quelque chose pour vous. C'est J'ai presque envie de dire, Jésus se contente de cette démarche, mais qui finalement n'est pas si mal. Ces gens viennent le voir avec une espérance. Eh bien, Jésus prend ça pour une foi, en tout cas une foi suffisante, faut-il croire, pour pouvoir leur dire, ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. Alors, voilà les premiers éléments. Nous sommes quand même, nous sommes concernés, je dirais, par cette réflexion, dans le sens où nous prions souvent pour des guérisons. Alors, à plusieurs titres, la guérison pour nous-mêmes, pour une maladie, une difficulté, un problème de santé, pour nos proches. La guérison aussi spirituelle, pour toutes sortes de guérisons. Nous prions beaucoup et nous faisons bien de prier le Seigneur pour la guérison. Et alors, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que, oui, parfois, le Seigneur guérit. Nous en sommes témoins dans cette Église, dans nos vies, dans nos familles, au sein de l'Église. Nous sommes témoins que Jésus, que le Seigneur guérit. Et puis parfois, il ne guérit pas. Et oui, il ne guérit pas toujours. Alors, gros point d'interrogation, pourquoi? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas marché? On a des raisonnements, vous allez voir, qui sont finalement assez tortueux. Je n'ai pas la prétention aujourd'hui de vous fournir une explication claire, définitive et limpide. Pourquoi Dieu ne guérit-il pas toujours lorsque nous le prions dans ce sens? Mais par contre, je pense pouvoir vous proposer une piste de réflexion sur cette fameuse guérison ou cette non-guérison. D'abord, en examinant nos problèmes, nos façons tordues de penser, je crois qu'en tout premier lieu, il y a le fait que nous faisons un peu comme Jésus. Jésus fait une relation, je vous l'ai dit tout à l'heure, entre la maladie et la foi. Eh bien, nous aussi, nous la faisons. Mais nous établissons tout de suite une échelle de performance, une notion de capacité, de mérite même. C'est-à-dire que, Dieu n'a pas répondu, ne m'a pas guéri, donc c'est que peut-être ma foi n'est pas encore assez solide. Ma foi n'est pas suffisante, n'est pas assez performante, j'ai pas assez la foi. Vous voyez, on établit tout de suite un système de mérite, quoi. C'est-à-dire, un tel a été guéri, oh ben, il le méritait bien, il avait la foi. Un tel n'a pas été guéri, peut-être qu'il a encore quelques efforts à faire du côté de la foi. Alors là, c'est un piège, j'allais dire, tragique, mes amis, tragique. Parce que nous rentrons dans un processus qui est tout ce que vous voulez, sauf l'Évangile. Tous ces gens qui s'approchaient de Jésus, ils ont été guéris. Bien. Est-ce qu'ils avaient une foi en béton, en acier trempé? Excusez-moi, mais je ne trouve pas. Essayez de vous mettre dans le contexte. Jésus, c'était dit, je l'ai lu tout à l'heure, il avait une telle réputation que cette réputation le précédait. Il pouvait même plus mettre un pied dans un patelin sans déclencher une émeute. Vous imaginez si quelqu'un venait, on sait depuis des mois qu'il guérit à tour de bras, etc. Où est la foi? Enfin, si, il y a quand même une foi, mais elle n'est pas énorme. Hein. Je veux dire, les gens, qu'est-ce qu'ils avaient à perdre? Ils venaient voir Jésus, ils savaient qu'il en avait guéri des dizaines ou des centaines avant lui, avant eux. Pourquoi pas moi? Puis le Jésus, il le voyait, il le touchait, il le... Bref. Nous, 2000 ans après, on s'approche toujours de Jésus, mais bon, par la prière, hein, c'est déjà plus difficile. Donc, vous voyez ce que je veux dire, ces gens-là, bon, oui, ben, ils avaient la foi puisque Jésus le dit. Ta foi t'a sauvé. Mais enfin, une foi, franchement, à bon compte. Et pourtant, Jésus s'en contente. Il les guérit. Et il leur dit, ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. Alors je pense que oui, nous sommes dans ce processus pervers d'établir une sorte de notion de mérite à notre foi, en conséquence de quoi nous serions ou nous ne serions pas guéris de nos problèmes, de nos maladies, de nos infirmités. Je vais vous prendre l'exemple inverse maintenant. Si c'était le cas, si Dieu nous guérissait selon les mérites de notre foi, je vais vous dire, dans le Nouveau Testament, il y a un personnage qui vraiment, lui, méritait d'être guéri, c'est l'apôtre Paul. Dans une de ses épîtres, je ne sais plus, Romain, je crois, c'est pas sûr. Dans une de ses épîtres, il écrit qu'il a un problème de santé, on pense que c'est les yeux, mais on n'est pas sûr, enfin bon, peu importe, ça n'a pas d'importance. Un problème de santé, vraiment quelque chose qui le fait souffrir, qui l'handicape, etc. Bon. Et par trois fois, il demande, il prie, est-ce que Paul avait la foi ? Ah, je veux qu'il avait la foi. Tellement de foi que Dieu lui a donné tous les dons. Est-ce que vous vous rendez compte, ce gars, il a eu tous les dons. Don de prophétie, don de la parole, le don de guérison. Il a guéri des gens, il a même ressuscité des morts, ou en tout cas un, vous savez, le jeune homme qui est tombé de la fenêtre, il s'est endormi, il était assis au bord de la fenêtre, il est tombé du premier étage. Il a ressuscité un mort, donc il avait le don de discernement, il avait des visions, il avait tous les dons. Preuve que sa foi était en béton. En tout cas, à côté de la mienne. Et quand il demande, pour une fois, une petite guérison au Seigneur, vous savez ce que le Seigneur lui dit ? Ma grâce te suffit, t'as pas besoin de ça. En gros, c'est ça. Hein ? Ma grâce te suffit. Conséquence, lisez, relisez éventuellement l'épître en question, Paul se glorifie, là, il est gonflé, hein ? Il se glorifie du fait de ne pas avoir été exaucé, en disant, c'est exactement ce qu'il me fallait, c'est très bien pour moi, ça me fait du bien, c'est ce qu'il dit. Il dit, c'est comme un ange qui vient me souffleter à chaque fois que je serai tenté d'être enflé d'orgueil. Il y a cette maladie, cette infirmité, je ne sais pas ce que c'est, qui vient me rappeler, et calme-toi, tu n'es qu'un homme, tu n'es pas encore un ange. Est-ce que vous vous rendez compte ? Alors, vous voyez, entre ces braves gens qui lui avaient peut-être pas vraiment bien compris qui était Jésus, etc., ils sont guéris, Jésus leur annonce le salut. Et puis entre Paul, qui est le champion de la foi, et qui lui n'obtient pas ce que lui-même a donné aux autres, hein, guérison miraculeuse. Alors, laissons tomber, là c'est un peu le cœur de ma réflexion ce matin, laissons tomber cette échelle de valeur dans nos foi. Jésus ne fonctionne pas, le Seigneur ne fonctionne pas comme ça. Il est clair que, vous voyez, cette guérison que Jésus accorde à tous ces gens qui se présentent à lui, dans le fond, j'aurais envie de dire, c'est la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, ils sont venus chercher une cerise, et Jésus leur donne un gâteau. Mais il leur donne en plus la cerise. C'est un bonus, c'est un plus. C'est-à-dire qu'en fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quelle commune mesure entre la vie éternelle et une guérison, aussi merveilleuse soit-elle. Et donc, la guérison, à ce moment-là, ne devient que simplement un signe visible, avec les yeux, parce que tout le monde a pu voir le boiteux qui se lève, enfin le paralysé qui se lève, ou l'aveugle qui se met à voir, ou le muet qui se met à parler. Tout le monde a pu constater, donc un signe visible qui vient crédibiliser ce qui n'est pas visible. Ce qui n'est pas visible, c'est quand Jésus dit « Tu es sauvé, je t'accorde la vie éternelle ». C'est Jésus qui le dit, oui, mais ça ne se voit pas sur le coup. C'est une promesse. Donc, vous voyez, la guérison, gardez ça à l'esprit, la guérison n'est qu'un signe visible du salut de l'homme qui, lui, n'est pas visible. Je peux vous citer, il y en a deux qui me viennent à l'esprit dans la Bible, deux textes qui prouvent ça. Le texte qui est immédiatement après celui qu'on vient de lire, le paralytique guéri. Alors vous connaissez l'histoire, le paralytique, il est amené par quatre amis, on le descend par le toit parce qu'il ne pouvait pas passer par la porte tellement qu'il y avait de la foule. On le descend par le toit, il faut un trou, vous savez, c'était de la paille avec du torchis. Il faut un trou, il descend, il arrive devant Jésus. Jésus précisément lui dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Alors là, grand silence dans la foule, consternation. Comment se permet-il, cet homme, de pardonner les péchés? Seul Dieu a le droit de pardonner les péchés. Grand silence. Et le texte nous dit que Jésus, connaissant leurs pensées, Jésus leur pose cette question. Qu'est-ce qui est le plus facile ? De dire tes péchés sont pardonnés ou bien lève-toi et marche ? C'est facile de répondre à cette question. Mais personne n'y répond. Toujours grand silence. Et Jésus rajoute, écoutez bien ça, et bien pour que, alors de mémoire, je pourrais lire, mais bon, pour que le monde sache que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, et bien je te dis, toi, lève-toi et marche. Et le gars guéri, il se lève, il marche. Il prend son lit et il sort. Donc vous voyez bien que là, Jésus fait de la guérison un signe. Le signe de la manifestation visible de quelque chose d'extraordinaire qu'il réalise chez cet homme, qui n'est pas la guérison de son infirmité, qui est son salut. Parce qu'au début, il dit, voyant leur foi, ils étaient au moins cinq, il y avait quatre hommes qui l'ont descendu, puis lui, voyant leur foi. Autre texte, peut-être encore plus direct. Quand, vous savez, Jean-Baptiste, quand Jean-Baptiste est emprisonné par Hérode, ça n'a pas dû être tendre pour lui. Avant d'être décapité, bon, je vous fais grâce des détails, du fond de son cachot, eh bien, il se met à douter. Parce qu'il n'imaginait pas l'histoire qui se finisse comme ça pour lui. Il se met à douter, et lui aussi, il avait annoncé lui-même le Messie. Il l'avait reconnu en la personne de Jésus. Et puis là, il se retrouve avec les rats, pain sec et à l'eau. Donc il se met à douter. Alors il fait dire par des amis, il fait poser la question à Jésus, « Es-tu celui qu'on attendait ? Es-tu vraiment le Messie ? Ou faut-il en attendre un autre ?» Et qu'est-ce que Jésus va lui répondre ? Est-ce qu'il lui répond, « Oui, c'est moi le Messie, regarde, je pardonne les péchés, j'annonce le salut, je... » Non, 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 non. Jésus, il va citer les signes. Il dit, « 1, les aveugles voient, 2, les muets parlent, 3, les boîtes marchent, etc. » Qu'est-ce qu'il fait ? Alors bien sûr, il fait allusion aux bonnes vieilles prophéties. Et ces prophéties, qu'est-ce qu'elles disaient ? Elles annonçaient les signes qui annonceraient la venue du Messie, qui authentifieraient la personne du Messie. Donc, voilà, cette guérison, vous voyez, bien sûr que quand on prie le Seigneur pour notre guérison, quelle qu'elle soit, ou la guérison d'un proche, on est tout tendu vers cette guérison. Mais si elle ne vient pas, alors eh bien, on est déçu. C'est un peu comme, ben oui, on a eu le gâteau, mais malheureusement, on n'a pas eu la cerise sur le gâteau. C'est quand même un petit peu fort. Qu'est-ce que ça veut dire, ma grâce te suffit ? Quand Dieu dit ça à Paul, ma grâce te suffit, vous savez comment je le traduis, moi ? Ça veut dire, ta foi est suffisamment costaud, ta foi est suffisamment solide pour se passer d'une guérison que tu aimerais bien voir, mais tu n'en as pas besoin, ta foi est béton. Alors ça veut dire peut-être que, à l'inverse, tous ces pauvres gens qui venaient voir Jésus, eh bien s'ils n'avaient pas été guéris, ils n'auraient pas cru en la parole de Jésus qui leur dit « Tu es sauvé, tu as le royaume de Dieu, tu as hérité de la vie éternelle. » Ils ne l'auraient peut-être pas cru parce que eux, leur foi était vraiment au ras des pâquerettes. On ne peut pas leur reprocher, c'était comme ça. Alors là, eux, ils avaient besoin de la guérison. Alors je ne fais surtout pas de raccourci, parce que vous allez finir par croire, oui, quand on est guéri, c'est qu'on n'a pas de foi. Et puis quand on n'est pas guéri, c'est qu'on a une super foi. Mais non. Je vous l'ai dit, il restera toujours un éternel point d'interrogation jusqu'à ce que nous soyons dans le royaume des cieux par rapport à la guérison et la non-guérison. Mais cette piste de réflexion que je vous ai proposée, pensez-y. Pensez-y, est-ce que... Alors, la prière, on va revenir sur les fondamentaux. Là. La prière, c'est pas un monologue, hein, c'est un dialogue. C'est-à-dire que c'est bien, on parle à Jésus, on lui explique tout ce qu'il sait déjà mieux que nous, et qu'il sait par avance d'ailleurs. Mais c'est pas grave, ça nous fait du bien à nous de lui expliquer. Tu sais, il y a ça qui va pas dans ma vie. Bon, dans un deuxième temps, il faut peut-être savoir écouter, puisque si c'est un dialogue, ben, Dieu il nous répond. Sommes-nous capables d'entendre, déjà d'écouter la voix de Dieu ? Parce que c'est clair que notre problème, il est là aussi. Nous écoutons seulement si la réponse va dans le sens qu'on lui a suggéré ou qu'on a pensé. Alors là, on écoute. Hein. Alors là, oui, si le Seigneur dit « Oui, je vais t'accorder tout ce que tu as demandé », là, on l'entend. Mais si on n'entend pas, c'est peut-être parce que, ben vous savez, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre, parce que la réponse de Dieu ne va pas dans le sens qu'on avait imaginé au départ. C'est sûr que quand on prie pour un malade, eh ben la réponse qu'on attend, c'est la guérison de ce malade. Mais, seulement voilà, Dieu répond toujours, pas forcément avec la guérison, mais il répond. Et il se trouve que, si nous avions un tant soit peu de foi, nous serions persuadés que cette réponse de Dieu, même si elle n'est pas celle qu'on attendait, elle est infiniment meilleure que celle qu'on attendait, c'est celle qu'il nous fallait, mais on ne l'entend pas, on ne l'écoute pas. Ah, le gars, il est toujours malade. Moi, je suis toujours malade. Ça n'a pas marché. Oui. Oui. Voilà donc un petit peu ce que tout ce que m'inspirait l'ensemble des miracles de guérison de Jésus. Alors maintenant parlons, je termine avec ça, revenons quand même sur notre texte, le lépreux. Alors il faut préciser un peu les choses. Le lépreux, c'était la lèpre, c'est quelque chose de terrible. Alors à l'heure actuelle, elle se guérit très facilement parce qu'on a des, la technique, la technologie, la science. Quelque chose de terrible, alors ça peut paraître même très injuste, y compris dans le texte du Lévitique. Bon, le lépreux, il subit véritablement une condamnation. Il faut peut-être préciser que était englobé sous le terme de lèpre tout ce qui était maladie dermatologique, parce qu'on sait maintenant que la lèpre, dans le fond, elle n'est pas contagieuse, elle est très peu contagieuse. C'est quand même extraordinaire, Dieu il le savait, si les hommes ne le savaient pas, Dieu, en inspirant la loi à Moïse, il devait le savoir quand même. Hein. Donc cette lèpre, elle est très peu contagieuse. Par contre, il y a certaines maladies de peau qui sont extrêmement contagieuses et très dangereuses, avec des staphylocoques et des machins, toutes les horreurs qu'on peut imaginer. Donc, ne sachant pas faire la différence, on regroupait certainement sous le terme de lèpre tout ce qui était maladie dangereuse, contagieuse et dangereuse. D'où le besoin d'isoler les malades. Mais le problème, si vous regardez bien, c'est que les lépreux, j'en ai déjà parlé une fois, ils avaient une double peine. Hein. Parce que comme les autres infirmes, les autres malades, ils avaient la peine de leur maladie, la souffrance qui va avec, l'invalidité, etc. Et puis la fin de vie rapprochée aussi, qui arrivait avec. Et puis, ils avaient la malédiction. C'est un peu comme Alain nous rappelait il y a 15 jours, les femmes stériles. C'était vécu comme une malédiction, c'est-à-dire comme une punition. Alors ce lépreux, moi je comprends quand il est marqué, bon c'est souvent dit, hein, mais Jésus ému de compassion. Ben là il y a une double émotion, Jésus, double émotion parce que le gars souffrait une double peine. Alors ce lépreux, vous avez remarqué, il y a quelque chose d'assez formidable dans ce tout petit récit, c'est qu'on a l'impression que pour une fois, Jésus ne dirige pas les opérations. Hein. Il est passif, c'est-à-dire il n'a pas la main. C'est le lépreux qui vient. Alors déjà, la démarche de foi, il vient à Jésus, hein, c'est tout ce qu'on a vu tout à l'heure, il confesse sa foi puisqu'il dit « Jésus, tu peux me guérir, si tu le veux, tu peux me guérir ». Donc il croit que Jésus a la capacité de le guérir, donc il affirme sa foi. Et puis, c'est lui qui propose un peu le cadre, oui, dans lequel tout va se passer, en disant « si tu le veux », alors ça on va y revenir après, tu peux me guérir. Non pas tu peux me guérir, tu peux me rendre pur. C'est lui, c'est pas Jésus, c'est lui qui fait la relation entre la maladie et le salut, parce que tu peux me rendre pur, et c'est à double sens, tu peux me rendre pur, c'est-à-dire ma peau pure, la santé, mais tu peux me purifier de mes péchés. C'est lui qui propose cette ambivalence du terme, là pour une fois, même en français, pas besoin de deux traductions, tu peux me rendre pur de quoi ? Me rendre pur. Vous voyez, c'est lui qui compose tout. Alors Jésus, du coup, il a plus de boulot. Et Jésus, il dit, ben, je le veux, sois pur. Intéressant. Donc, Jésus n'a pas besoin, là, cette fois-ci, lui, d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile, parce que vous avez compris, donc, guérison et annonce de l'Évangile sont indissociables. Quelqu'un qui se vanterait de guérir, d'avoir le don de guérison, s'il n'annonce pas l'Évangile, c'est un charlatan. La guérison intervient toujours dans le contexte de l'annonce de l'Évangile. Et là, le lépreux a tout compris. Et en plus, il rajoute, Alors ça, c'est formidable. C'est si tu le veux. Ce si tu le veux, oui, c'est pas une petite formule comme ça pour être poli. Bon, certainement, il est poli avec Jésus, mais c'est pas une formule de politesse. Si tu le veux, moi, je le traduis par que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. C'est-à-dire que, en venant demander la guérison à Jésus, il admet déjà le principe que peut-être il ne serait pas guéri parce que ce serait la volonté de Jésus et qu'il la respecterait. Je vais un peu loin, hein, mais je le sens comme ça. Si tu le veux, vous savez, Jésus à Gethsémané, ben lui aussi demande une guérison temporaire. À Gethsémané, pendant qu'il prie, il est pris d'une telle angoisse qu'il demande à Dieu de lui... Bon, c'est une formule d'écarter cette coupe, enfin, c'est-à-dire de le soulager pendant quelques instants de cette angoisse mortelle qu'il vit. Et il rajoute, toutefois, Père, que ta volonté soit faite. C'est-à-dire que lui aussi, il dit, voilà ce que j'aimerais, mais si ce n'est pas ta volonté, laisse tomber. Enfin, bon, il ne dit pas comme ça, hein, mais ça revient au même. Et bien là, ce lépreux, oui, c'est ce qu'il dit. Si telle est ta volonté, guéris-moi. Parce que je sais que tu le peux, mais si tu le veux. Eh bien, c'est peut-être aussi une dimension qui manque dans nos prières. Seigneur, voilà mon problème, voilà ma souffrance, voilà mon infirmité, voilà la difficulté, le problème de santé de moi, de mes proches, d'un tel ou une telle. Si telle est ta volonté, guéris, Seigneur. Mais je sais que si ce n'est pas ta volonté, tu as quand même une réponse. Tu as quand même une réponse. Et que cette réponse, comment dire, cette réponse, eh bien, c'est la plus formidable réponse que je pouvais attendre. Elle est au-delà de ce que je pouvais attendre, parce que c'est toi qui la donnes. Voilà. Amen.